Mais je vous demande simplement d'être avec moi et de vivre ce que j'ai à vivre avec vous. C'est une grâce insigne qu'il leur fait, beaucoup plus grande que d'être premier ou second ministre. Ayant entendu, évidemment, les 10 commencèrent à s'indigner. Voilà. On est tous sur le même pied. Ils revendiquent, on est jaloux parce qu'ils revendiquent. On voudrait bien revendiquer aussi, au sujet de Jacques et de Jean. Et les ayant appelés auprès de lui, il y a encore quelque chose qui vous manque. Les ayant appelés auprès de lui, Jésus leur dit, vous savez, vous savez. Et c'est à partir de votre savoir que je vous parle. Vous savez que ceux qui estiment être chef des nations, ceux qui estiment être chef, se conduisent en seigneur vis-à-vis d'elles. Et que les grands font sentir leur autorité sur elles. On a du pouvoir, hein? On vous le fait sentir. Or, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre servant. Et qui voudra parmi vous être premier, sera serviteur de tous. Il redit ce qu'il a déjà dit. Vous retrouvez ce que Saint Jean dit d'une autre manière lorsqu'il montre Jésus lavant les pieds de ses disciples. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, je le suis. Quel est l'avantage du maître et du seigneur? Ou quel est le privilège du roi? C'est comme il se trouve au-dessus de l'échelle, au haut de l'échelle, c'est de pouvoir se pencher vers le plus bas. C'est ça la grandeur du roi. C'est d'être proche des petits, des fidèles, de ses sujets. Et Jésus dit, c'est la même chose. Le véritable seigneur, c'est celui qui sert. Vous savez que ceux qui estiment être chef des nations se conduisent en seigneur vis-à-vis d'elles. C'est tout le procès que font les deux livres des rois contre l'autorité royale. Parce que ces livres des rois sont faits pour vous montrer exactement comment être roi comme les autres nations, c'est-à-dire posséder le pouvoir et le faire sentir, ça mène à un fiasco, parce que c'est attirer les choses à soi. Alors que le roi est fait pour être au service. D'ailleurs, ministre veut dire serviteur. Hein? Bon. C'est pas toujours comme ça que c'est vécu. Et que leurs grands leur font sentir leur autorité sur elle. Or, il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre servant, et qui voudra parmi vous être premier sera serviteur de tous. Car, attention à ces car, qui disent toujours le fondement. Le Fils de l'homme aussi n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme, la fille de l'homme que nous sommes, chacun, et donner sa vie en rançon pour la multitude ou pour beaucoup. Donner sa vie. Déjà, nous avons vu que c'était la seule chose que nous avions en propre. Donner sa vie. Et ils viennent à Jéricho. Et comme ils s'en allaient de Jéricho, tiens, il ne s'est rien passé à Jéricho. On vient à Jéricho et on quitte. Ah oui. Et Jéricho, c'est un lieu de passage, hein. C'est rien d'autre. Jéricho, c'est le passage du Jourdain. Moïse reste d'un côté et Josué passe. Jéricho, c'est le passage d'Élie et Élisée. Élie est emporté vers Dieu et Élisée continue. Jéricho, c'était le lieu où Jean baptisait, tout près, Beth-Amara, le lieu du passage. C'est un passage. Jean-Baptiste a laissé la place à Jésus. Ils viennent à Jéricho, et comme ils s'en allaient de Jéricho. Donc, nous sommes en passage vers. Passage vers Jérusalem. Quand on vient du désert, Jéricho est le seul endroit où l'on passe, où la route passe, pour monter à Jérusalem. C'est pourquoi d'ailleurs, on vous raconte comme première conquête, si on peut dire, de Josué, la prise de la ville de Jéricho, qui n'existait pas à l'époque où Josué est passé. Mais de mémoire d'homme, quand on vient du désert, on passe par Jéricho, d'une ville qui date de 7000 avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Et comme il s'en allait de Jéricho, lui et ses disciples, et une foule suffisante, bon groupe quoi, le fils de Timée, Tamé, ça veut dire impur, le fils de l'impur, fils de Timée, Bartimée, un aveugle, était assis le long du chemin, en mendiant. Nous sommes en chemin, n'oubliez pas, hein. Il se trouvait en chemin, montant vers Jérusalem. Et donc, il faut passer par quelque chose. Ah, on va voir quoi. Il était assis le long du chemin, en mendiant, et ayant entendu que c'était Jésus le Nazarénien, il commença à crier et à dire, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient. Oui, on se rabroue beaucoup, hein. « Afin qu'il se taise. » Celui-ci criait beaucoup plus, « Fils de David, prends pitié de moi. » Et Jésus s'arrêtant dit, « Convoquez-le, faites-le venir. » Et il convoque l'aveugle. Ne vous en faites pas si parfois j'utilise des mots qui ne sont pas utilisés d'habitude, mais c'est pour traduire chaque mot grec par un mot différent du français. Alors, hein, tout à l'heure, hein, on me disait abandonner ses parents, ben, faut pas les abandonner. Je sais bien, en français, on ne dirait pas ça, on dirait plutôt quitter. Mais comme j'avais déjà utilisé quitter pour traduire un autre verbe, grec, il fallait bien prendre un verbe que je n'avais pas encore utilisé, et qui revient par ailleurs. Donc, il ne faut pas être trop pointilleux sur la manière dont j'ai traduit les verbes grecs. Si je faisais une véritable traduction, je traduirais différemment. Jésus s'arrêtant, dit, convoquez-le. Il convoque l'aveugle en lui disant, aie confiance, réveille-toi. Ressuscite, mets-toi debout, il te convoque, il t'appelle. Je dirais bien, il t'appelle, mais ce n'est pas exactement le même mot. Celui-ci, ayant rejeté son manteau ou son vêtement, ayant bondi, vint auprès de Jésus. Les pères de l'Église ont souvent toute une petite explication de ce manteau. Ils disent que ce manteau, c'est comme le grabat du paralysé, il s'agit de son passé. Il rejette tout son passé pour venir vers Jésus et pour le suivre. Ayant bondi, vint auprès de Jésus, et lui répondant, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Tiens, exactement ce qu'il avait dit, hein, à Jacques et Jean. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais lui a dit, « Prends pitié de moi. » Jésus lui demande, hein, de, de déterminer davantage, de détailler son souhait. L'aveugle lui dit, Rabboni, que je vois à nouveau. Jésus lui dit, pars, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, tiens, il y avait un certain temps qu'on n'avait plus ça, hein, ah, ça vient de nouveau. Et aussitôt, il vit à nouveau, et il le suivait sur le chemin. Pourquoi il se trouve là, cet aveugle ? Ben, cet aveugle, évidemment, nous représente. Nous sommes là et nous demandons au Seigneur, oh, nous avons quand même suivi nous aussi, hein, nous voudrions qu'il ait pitié de nous. Parfois, nous voudrions aussi, comme Jacques et Jean, avoir une place de premier et de second ministre. Hein. Ici, c'est déjà un peu plus modeste. Qu'est-ce que nous demandons ? Que je voie à nouveau. Voir, c'est se laisser regarder. Jésus, fixant sur lui son regard, l'aima. On passe juste à Jéricho pour apprendre à voir, pour apprendre à regarder. Il ne raconte pas son évangile n'importe comment, hein. Il sait très bien ménager ses effets. C'est une œuvre littéraire et c'est bien composé. Et c'est probablement Marc qui a commencé, qui a inauguré le genre littéraire évangile. Il est d'ailleurs le seul à parler du mot évangile. Paul va en parler beaucoup. C'est lui qui a commencé. Donc, nous avons vu, il se trouvait en chemin en montant vers Jérusalem. Ici, nous avons vu que l'aveugle était le long du chemin et puis qu'il vit à nouveau et le suivait sur le chemin. Et lorsqu'il s'approche de Jérusalem, on arrive, pas loin, vers Bethphagé et Bethania, Bethonia, Beth maison, Bethphagé, maison des figues non mûres. Phagé, c'est une figue qui se ratatine sur elle-même, là, qui se dessèche, une figue qui n'est pas mûre, qui ne mûrira pas. Bethphagé, donc ça c'est au-dessus du mont des Oliviers, donc on peut. Il n'y a pas de quoi s'étonner de trouver hein, là un endroit qui dise la maison des figues non mûres. Et Bethonia, c'est la maison de la pauvreté. Donc lorsqu'il s'approche de Jérusalem, en montant à partir de Jéricho, hein, on arrive du côté du désert, du côté où on prend Bethanie d'abord et puis Bethphagé. Auprès de la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit « Partez au village juste en face de vous. » Et aussitôt, tiens, ça reprend, hein, et aussitôt, en y pénétrant, vous trouverez un ânon lié sur lequel encore personne des hommes ne s'est assis. Déliez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, mais pourquoi faites-vous ceci ? Dites, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il vous le renvoie de nouveau ici. Il vous le renverra une fois qu'il a fini. Hein, vous le retrouverez, ne vous en faites pas. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous ceci ? Dites, le Seigneur en a besoin. Pourquoi il parle de cette manière-là ? Nous allons voir, ça va revenir un peu plus loin. Et aussitôt, il le renvoie de nouveau ici. Ils s'éloignèrent. et trouvèrent un ânon lié auprès d'une porte, au dehors, sur la rue, et ils le délient. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, souvent vous trouvez à des endroits bien déterminés, des gens qui papotent, qui restent là hein, toute la journée, et qui voient tout ce qui se passe, évidemment. Donc c'est normal qu'on demande, mais que vous êtes là, vous autres, hein? Délier cette annonce, ça ne vous appartient pas, vous en faites pas, ça reviendra. Et si quelqu'un de ceux qui se tenaient là, et quelques-uns, pardon, de ceux qui se tenaient là leur disaient, mais que faites-vous en déliant l'anneau? Ceux-ci leur dirent, selon ce qu'avait dit Jésus, et on les laissa. Le Seigneur en a besoin. Et ils amènent l'anneau auprès de Jésus, et ils jettent sur lui leur manteau ou leurs vêtements, et il s'assit sur lui. Cela nous rappelle la montée de Salomon, qui, à peine fait roi, grâce aux manigances de Bethsabée, hein, qui était la mère de Salomon, et du grand prêtre, et qui monte à Jérusalem, et puis, pour reconnaître qu'il est roi, on met son manteau. Le manteau signifie la puissance. Hein, les vêtements sont faits de deux pièces, souvent un petit bagne, mais alors vous avez la tunique de lin, c'est-à-dire le monde végétal, le lin c'est du végétal, et le manteau de laine, c'est le monde animal. C'est important que ce soit l'un et l'autre, et qu'ils ne soient pas mélangés, ils ne sont pas tissés ensemble. On ne tisse pas ensemble le monde végétal et le monde animal. Ce sont deux choses différentes que Dieu a distinguées, donc on ne va pas les mêler. Ça aussi, ça fait partie de la cacheroute, de ce qui est cachère. Mais le vêtement symbolise la personne. Et le vêtement symbolise le pouvoir, la puissance de la personne, son ascendant, éventuellement aussi sa qualité dans la société. Un roi a un manteau écarlate. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un manteau écarlate. Et donc, mettre ses vêtements pour que Jésus s'asseye dessus, ou bien les étaler sur la route pour que l'ânon passe dessus, c'est, au fond, c'est le reconnaître comme leur roi. Et donc, tout le scénario va un peu dans le sens de ce que les disciples souhaitaient. Ils souhaitaient aller à Jérusalem, et puisque Pierre avait dit qu'il était le Christ, de prendre possession de son trône de Christ, de loin de Dieu. Mais, normalement, c'est un cheval qu'il faudrait prendre. Le cheval, c'est l'animal de guerre, l'animal de la puissance, l'animal du pouvoir. Or, il s'agit d'un ânon. C'est un petit serviteur de rien du tout. C'est même pas un âne, c'est un ânon. Un tout petit serviteur. L'ânon est considéré, ou l'âne est considéré, comme celui qui fait toutes les tâches rebutantes. Que faites-vous en déliant l'ânon? Eh bien, le Seigneur a besoin de serviteurs. Et ils amenèrent l'ânon près de Jésus, et ils jettent sur lui leur manteau, et il s'assit sur lui, et beaucoup étalèrent leur manteau sur le chemin, tiens, le chemin revient, et d'autres des feuillages, les ayant coupés dans les campagnes. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le royaume qui vient de notre père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Difficile de comprendre ce petit verset si on n'a pas en tête beaucoup de choses qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Première chose, je vous en ai dit un mot tout de suite, c'est l'intronisation du roi Salomon. Premier livre des rois, chapitre 1er. Vous savez que le deuxième livre de Samuel parlait de David, et que le premier livre des rois commence avec Salomon. Voilà, nous y sommes. Et qu'est-ce que nous voyons là ? Intronisation du roi Salomon. Après la petite manigance là, hein, de Bethsabée et du prophète Nathan. Le roi David prit la parole, appelez-moi Bethsabée, elle entra chez le roi. Je suis au chapitre 1er, verset 28 du premier livre des rois. Et se tint devant lui. Alors le roi fit ce serment, par le Seigneur vivant qui m'a délivré de toutes les angoisses, comme je t'ai juré par le Seigneur Dieu d'Israël, que ton fils Salomon régnerait après moi et s'assiérait à ma place sur le trône, ainsi ferai-je aujourd'hui même. Donc, alors qu'il y avait d'autres prétendants plus âgés que Salomon, hein, prétendants au trône, David choisit le plus jeune Salomon. Bethsabée s'agenouilla, la face contre terre, se prosterna devant le roi et dit « Vive à jamais, mon Seigneur, le roi David !» Vive à jamais. Mais « mon Seigneur, le roi David », ça veut dire sa descendance. Puis le roi David dit « Appelez-moi le prêtre Tsadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yiroyada. » Ils entrèrent chez le roi, ceci leur dit « Prenez avec vous la garde royale, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et faites-le descendre à Gihon. » Gihon, c'est la source, hein, la seule source de Jérusalem. Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan lui donnèrent l'onction comme un roi d'Israël et lui donneront l'onction comme un roi d'Israël. Vous sonnerez du cor et vous crierez « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez à sa suite, il entrera s'asseoir sur mon trône, régnera à ma place, car c'est lui que j'ai institué chef sur Israël et sur Juda. Et voyez, c'est tout ça qui joue dans la mémoire de l'évangéliste pour nous dire « Tiens, Jésus est vraiment le Christ, c'est-à-dire le successeur de David sur le trône d'Israël. » Oui, mais c'est un annon ici. Et alors, qu'est-ce qu'on crie ici à Hosanna? Là, c'est un texte que vous connaissez bien, au moins tous ceux et toutes celles qui chantent les psaumes, c'est ce fameux psaume 118. Ce psaume 118 est vraiment important, parce que c'est le psaume de la fête des tentes, la fête de Soukhot. Et c'est justement dans la fête des tentes, la fête de Soukhot, la fête des cabanes, hein, qui advient au mois de septembre-octobre, au moment de la récolte des fruits de la terre, des fruits des arbres, les olives, les figues, les grenades, etc., les dattes. Hein. C'est le moment de la récolte finale, récolte d'automne. Et alors nous avons dans le psaume 118 toute une liturgie de la fête des tentes où le roi, qui est le chef du culte, hein, le grand prêtre le remplace de façon courante, mais dans les grandes célébrations, c'est le roi qui est chef du culte, et qui vient en cortège pour entrer dans le temple et pour rendre grâce. Rendre grâce pour ses victoires, et rendre grâce aussi pour les fruits de la terre. Et c'est toute une petite liturgie, ce psaume 118. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Et ça, c'est l'invitation des Lévites, ou bien des prêtres, du grand prêtre. Et puis, le cœur des prêtres, qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Une entrée en matière, un prologue, un introïte, une entrée. Et puis, le roi. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur. Il m'a exaucé, il m'a mis au large. Le Seigneur est pour moi, plus de crainte. Que me fait l'homme à moi? Je ne crains pas les hommes, moi, je ne crains que Dieu. Le Seigneur est pour moi, mon aide entre tous. J'ai toisé mes ennemis. Le roi vainqueur. Vous voyez l'image, hein? C'est le roi vainqueur, le Salomon, qui entre comme chef, comme président du culte, hein, dans le temple de Jérusalem. Et puis, le chœur, ou les lévites, entrent et répondent, « Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de se fier en l'homme. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de se fier aux puissants. » C'est toute une liturgie dialoguée, hein, vous entendez bien. Puis le roi reprend, « Les païens m'ont entouré au nom du Seigneur, je les sabre. Ils m'ont entouré, enserré, au nom du Seigneur, je les sabre. Ils m'ont entouré comme des guêpes, ils ont flambé comme un feu de ronce. Au nom du Seigneur, je les sabre. » Le roi, fier d'être lui, hein. On m'a poussé, poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vint en aide. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Et voilà qui devient un peu plus modeste, hein. Et puis, les prêtres, clameurs de joie et de salut sous les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait prouesse, la droite du Seigneur a le dessus, la droite du Seigneur a fait prouesse. Vous voyez, ils enchaînent toujours, hein, comme en écho à ce que dit le roi. Non, je ne mourrai pas. C'est le roi qui reprend. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et publierai les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et voilà déjà un petit soupçon de résurrection. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bon, bien sûr, pour le roi Salomon, ça veut dire ma descendance continuera, hein. Mais pour celui qui, lorsque le roi n'existe plus, il n'y a plus de royauté en Israël, c'est le Messie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et publierai les œuvres du Seigneur. Vous voyez, Marc ne cite qu'un verset, mais il suppose qu'on connaît bien tout le psaume. Et donc qu'on laisse jouer toutes les harmoniques. Il m'a châtié. Châtié le Seigneur. À la mort, il ne m'a pas livré. Oui, j'ai eu des revers dans ma vie. J'ai eu des problèmes. Mais je ne suis pas mort, comme le pauvre Josias, hein, qui est mort trop tôt. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Et il est là devant la porte, et il frappe sur la porte, c'est la liturgie qui est reprise, hein, dans la liturgie du Jubilé, à Rome, hein. Frappe à la porte. Ouvrez-moi les portes de justice. Les portes de justice, c'était les portes du temple. C'était comme ça qu'on les appelait. Sha'aret Tzedek. Maintenant, Sha'aret Tzedek, c'est le nom des hôpitaux pour le tout venant, pour les pauvres. Sha'aret Tzedek. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Et les prêtres disent, mais c'est ici la porte de justice. Les justes entreront. Et puis le roi reprend, je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut. Mine de rien, quand vous récitez ce psaume, comme entrée de Jésus à Jérusalem, ça dit beaucoup de choses. Ça dit Jésus est en train d'entrer dans sa gloire. Non pas la gloire de la royauté, du trône royal, mais dans sa gloire de fils de l'homme. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle, c'est-à-dire la première pierre, la pierre à partir de laquelle on bâtit tout le reste. C'est là l'œuvre du Seigneur, ce fut merveille à nos yeux. Quelle est cette pierre rejetée par les bâtisseurs? Ben, c'est le pauvre, c'est le petit Salomon, le petit dernier là. C'est le pauvre, c'est le petit, c'est l'enfant tel que Jésus le mettait au milieu des apôtres. Et puis les prêtres de nouveau, il y a les Lévites, le cœur des Lévites. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Nous chantons souvent ça comme entrée, hein, les jours de fête. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous allégresse et joie. Et puis, de grâce, ça c'est toute la population qui est là avec le roi et qui implore le Seigneur. De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Et donne le salut, c'est Hosanna. Sauve, nous t'en prions. Hosanna, c'est ça que Hosanna veut dire. Hosanna, sauve, na, si tu veux bien. Voilà d'où vient notre Hosanna, Hosanna. Sauve, nous t'en prions. Entrée de toute la population avec le roi en signe de victoire, mais ça a été adapté après cela à la liturgie de la fête de Soukhot, hein, des tentes. De grâce, Seigneur, donne le salut, de grâce, Seigneur, donne la victoire. Et les prêtres, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Baruch haba b'shem Adonai. C'est ce qu'on vous dit quand vous arrivez quelque part en Israël, Baruch haba. Baruchim abayim au pluriel. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Et les prêtres, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Les prêtres bénissent le peuple. Bénir, cela veut toujours dire, quand bénir c'est Dieu qui le fait, donner la vie. Et quand c'est l'homme qui le fait, c'est reconnaître que la vie vient de Dieu. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. Et les Lévites qui n'aiment pas la débandade dans le temple, allez, serrez vos cortèges, rameaux en main. On est à la fête des rameaux, c'est-à-dire la fête des tentes. Hein? On agite les rameaux d'olivier, etc. Serrez vos cortèges, rameaux en main, jusqu'aux cordes de l'autel. Allez, vous allez jusque tout droit, hein, jusqu'à l'autel. C'est la rubrique qui passe dans le texte. Et là, le roi, au nom du peuple, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Quand vous lisez ce texte, hein, en vous représentant Jésus montant à Jérusalem, ça devient parlant. Mais Jésus ne vient pas en triomphateur, et pourtant, il s'en va vers le Père. Et puis, on achève la liturgie par l'avertissement, hein, là. Oui, des prêtres, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. On finit par vous enlever, on avait commencé. Entrée de Jésus à Jérusalem, entrée de Jésus dans le temple. Il y a encore un passage qui est important, c'est celui de Zacharie. Ce sont des gens qui ont une mémoire de l'Ancien Testament extraordinaire. Ils ont tout dans leur ordinateur de tête. Zacharie a une vision un peu étrange. De même que Daniel voyait le Messie, disons, oui, comme un fils d'homme venant sur les nuées, ainsi, la deuxième partie de Zacharie. Zacharie, c'est un livre qui est composé de plusieurs parties, notamment de deux grandes parties. Et lui aussi, Zacharie, a dans sa deuxième partie l'image d'un serviteur souffrant. Et au chapitre 9, qui est le début de la seconde partie du livre, vous avez un beau poème. Exulte avec force, fille de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Et fille de Sion, ça veut dire Jérusalem, qui est là comme une femme. Elle est personnifiée. Exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Et voilà, comment ce texte est appliqué par Jésus lui-même en disant, vous trouvez un âne, déliez-le. Humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc le Messie, ce grand Messie que vous attendez, c'est un homme humble. Pourtant juste et victorieux, mais humble. Monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Ephraïm la charrie, plus besoin d'armée, et de Jérusalem les chevaux, l'animal de guerre. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Voilà. Et quand Marc, comme les autres, bien sûr, c'est relisant l'Ancien Testament à partir de Jésus, qu'on va redécouvrir ou découvrir pour la première fois toutes ces harmoniques. Tiens, ce qui était présent chez les prophètes, Jésus l'accomplit d'une manière inattendue. Et c'est cet inattendu qui est intéressant. Jésus n'avait pas dans son agenda, le 4 mars, je dois faire ceci. Le 7 septembre, je dois monter à Jérusalem. Non, c'est pas ça, accomplir les Écritures. Accomplir les Écritures, c'est vivre dans la démarche de Dieu à travers toute l'histoire d'Israël, telle qu'il est imprimée dans les Écritures. C'est vivre en cohérence avec, comme Dieu a toujours vécu à travers l'histoire d'Israël, il continue de vivre avec l'histoire d'Israël continuée. Et ceux qui précédaient, et ceux qui suivaient, criaient « Hosanna, sauve, nous t'en prions. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. » Maintenant, on comprend, hein. « Béni celui qui vient au nom du Seigneur. » Et Marc ajoute « Béni le royaume qui vient de notre père David. » Le royaume qui vient, c'est Jésus en personne. Et qui vient dans la lignée de David. Hosanna, au plus haut des cieux. Et ça, c'est une petite note qui vous dit, sauve, mais c'est Dieu qui sauve. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et il entra à Jérusalem, dans le temple. Exactement comme dans le psaume 118. Il entra à Jérusalem dans le temple. Et ayant regardé autour de lui toutes choses, comme c'était déjà l'heure du soir, il sortit vers Béthanie avec les 12. Mais ne vous y trompez pas, ce regard circulaire sur l'esplanade du temple, c'est comme une prise de possession. Non pas dans le palais royal, il ne va pas dans le palais royal, où étaient les grands prêtres rois à l'époque. Non. s'en va dans le temple. Et c'est comme s'il prenait possession du temple. Sa royauté est d'une autre sorte que celle que l'on attend. Elle n'est pas du niveau de l'homme. Les pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles de l'homme. Et ici, il faut nous retourner vers Dieu. Ayant regardé autour de lui, comme c'était déjà l'heure du soir, comme lors de la multiplication des pains, il sortit vers Béthanie avec les 12. Il rentre dans la maison de pauvreté, bête mendiant. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, vous voyez, simplement comme avec Jéricho, on ne fait que passer. On passe par la maison de Béthanie. Comme on est passé par le passage de Jéricho, on passe par la pauvreté. Et il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint voir si de fait il trouverait sur lui quelque chose. On dit que sur un figuier, on peut toujours trouver un petit peu. Le figuier symbolise la loi, comme vous savez. Et il y a toujours un petit commandement dans la loi qui nous concerne. Hein? Voilà. Et donc il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, bon, il va voir s'il peut trouver dans ce figuier, sur ce figuier, quelque chose. Et venant à lui, au figuier bien sûr, il ne trouva rien sinon des feuilles. Car ce n'était pas le moment des figues. Nous dirons, bah, c'est normal alors qu'il n'en trouve pas. Oui, mais comprenez que s'il note cela de cette manière, c'est qu'il a une petite idée de derrière la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était pas le moment des figues. Pour ça, il faut savoir que le figuier symbolise la loi, la Torah, et que les figues symbolisent les commandements et l'observance des commandements, s'il vous plaît. Enfin, je continue, et puis je vais vous lire un petit passage ailleurs. Il vint voir si de fait il trouverait sur lui quelque chose, et venant à lui, il ne trouva rien sinon des feuilles, car ce n'était pas le moment des figues. Répondant, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits de toi. Curieux, hein? Maudire un figuier. Est-ce qu'il a fait de mal, ce figuier? Alors que ce n'était pas la saison des figues. Bizarre, hein? Vraiment bizarre. Et ses disciples l'entendaient. Oui, mais ses disciples l'entendent et connaissent bien Jérémie. Hein? Et Jérémie nous dit ceci au chapitre 8e. Il vient de parler du temple, tout le monde se glorifie d'avoir un beau temple, de pouvoir aller rendre grâce au Seigneur dans ce beau temple. Et on fait de belles célébrations, et puis quand on est sorti, on s'occupe pas du pauvre ni de l'orphelin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas. On prend la première table de la loi et on oublie la deuxième. Et au verset 13, je vais les supprimer, oracle du Seigneur. Plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier. Même le feuillage se flétrit. Je leur ai fourni des gens qui les piétinent. Pourquoi resterons-nous tranquilles? La vigne symbolise Israël. Et normalement, les vignes étaient entourées de figuiers pour avoir un peu d'ombre. Et dans la mentalité, dans les prophètes surtout, la vigne symbolise le peuple d'Israël qui est gardé par la Torah, c'est-à-dire par les figuiers tout autour, qui le protègent. Eh bien, plus de protection. Plus de protection. Les étrangers vont venir dans le sanctuaire, on va s'emparer de Jérusalem. Et donc c'est une manière symbolique de parler Je vais supprimer hein, le peuple d'Israël, qui crie paix alors qu'il ne veut pas la paix. Plus de raisins à la vigne, donc le peuple ne produira plus. Plus d'actions bonnes et plus de figues au figuier. Et il n'y aura plus d'observance de la Torah. Jésus vient à Jérusalem et découvre qu'on n'observe pas la Torah. Qu'on a été infidèle. C'est cela que symbolise cet épisode, qui est plus une parabole, hein, bien sûr, qu'un fait de l'histoire. Et ses disciples l'entendaient. Et ils viennent à Jérusalem, et étant entrés dans le temple, il commença à chasser les vendeurs et les acheteurs dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, et il ne laissait personne transporter d'affaires par le temple. C'est là le figuier qui ne porte plus de fruits. C'est qu'on fait du temple comme si c'était un grand magasin, une grande surface. Mais ce n'est pas ça. Et Jérémie, au chapitre 7, l'avait déjà dit. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres. Et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères. C'est le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit, chacun avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ce lieu, et si vous n'allez pas pour votre...